Il est 22h, vous écoutez Europe 1. Le journal de la nuit, c'est maintenant avec Sophie Tussaud.
Beaucoup entendent de fausses informations, de fausses rumeurs, parfois n'importe quoi, il faut bien le dire. Alors, j'ai décidé de répondre directement à vos questions. Posez-les-moi et j'essaierai d'être le plus direct et le plus clair possible.
Emmanuel Macron veut défaire le vrai du faux sur la vaccination. Le président s'est directement adressé aux Français aujourd'hui via les réseaux sociaux pour couper court aux rumeurs. Une médaille de plus en or aujourd'hui pour le tireur Jean Quincampoix. Et puis en parallèle, le retour de 34 médaillés à Paris, accueillis comme des héros par leurs supporters. 102 femmes sont mortes sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoint l'année dernière. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a évoqué une série de mesures pour lutter contre les violences faites aux femmes. Le taux d'abandon record des animaux domestiques cet été. Les refuges sont saturés. Nous entendrons le directeur de la SPA dans ce journal. Le temps, il va falloir encore attendre le retour du soleil, nous dira Valérie Darmon tout à l'heure.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
La réponse d'Emmanuel Macron après les manifestations anti-vaccination du week-end. Le président a pris la parole dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux. Une prise de parole après les manifestations contre le pass sanitaire qui ont rassemblé plus de 200 000 personnes à travers le pays. Emmanuel Macron qui veut contrer les fausses rumeurs.
Depuis le début de l'été, nous entendons beaucoup parler de la quatrième vague et de la seule arme que nous avons face à elle, le vaccin. Au moment où je vous parle, il y a un peu plus de 42 millions de Françaises et de Français qui ont reçu une injection de vaccin. Et il y a un peu plus de 35 millions d'entre nous qui avons reçu les deux doses et qui sont donc dûment vaccinés, complètement vaccinés. Je sais que pourtant, beaucoup parmi vous s'interrogent encore, ont peur. Beaucoup entendent de fausses informations, de fausses rumeurs, parfois n'importe quoi, il faut bien le dire. Alors, j'ai décidé de répondre directement à vos questions. Allez-y. Posez-les-moi et j'essaierai d'être le plus direct et le plus clair possible.
Emmanuel Macron sur son compte Instagram, le président qui a commencé à répondre aux Français sur la vaccination. Si vous ne le faites pas, faites-le pour les autres, a-t-il déclaré. Alors dans ce contexte, pas facile pour les Français expatriés, vaccinés à l'étranger, de rentrer en France et dans l'Union européenne. Pour faciliter les démarches, le gouvernement français a mis en place depuis aujourd'hui un pass sanitaire spécial. Les Français de l'étranger peuvent donc déposer leur demande par mail auprès du ministère des Affaires étrangères. Alexis Guilleux, c'est un éclaircissement, car pour les expatriés en vacances en France, ça n'est pas toujours simple de faire reconnaître leur vaccin dans l'Hexagone. Et ceux vivant aux États-Unis l'ont d'ailleurs largement constaté.
Oui, et même quand on est vacciné avec du Pfizer, c'est le cas de Yann, ingénieur dans la région de San Francisco. Il est arrivé en France ce week-end et la pharmacie dans laquelle il s'est rendu n'a pas réussi à générer son pass sanitaire.
Son système a posé la question quel professionnel de santé a fait l'ordonnance pour la vaccination. Et donc à ce moment-là, on ne pouvait rien écrire puisque j'ai été vacciné à l'étranger.
Gilles, vacciné lui aussi aux États-Unis, a obtenu son QR code grâce à la bonne volonté d'un pharmacien. Il déplore un manque de communication.
Il y a des gens qui ont essayé 10 fois avant de l'avoir. Moi, j'en me l'ai fait en 5 minutes, le pass. Les professionnels de santé ne sont pas au courant. Ils ne savent absolument pas comment gérer ces cas-là.
Il faudra envoyer une preuve de vaccination, une pièce d'identité et un justificatif de résidence à l'étranger pour obtenir son pass sanitaire. Mais certains, comme Grégory en France depuis le début de l'été, se posent encore des questions.
Une preuve de résidence, qu'est-ce que c'est? Parce que si c'est une petite tente de loyer, je ne me trimballe pas avec tous mes papiers. Donc encore une fois, c'est ni fait ni à faire. On veut bien suivre les règles, juste, il faut être clair, il faut que ce soit faisable.
Et par ailleurs, le gouvernement a bien précisé que seuls les vaccins homologués par l'Union européenne peuvent servir à générer un pass sanitaire.
Alexis Guilleux, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. Parallèlement, concernant la vaccination après Israël, c'est l'Allemagne qui propose une troisième dose, un rappel vaccinal à partir du mois prochain aux populations âgées et vulnérables.
Europe 1, le journal de la nuit.
Sophie Tussaud.
L'autre grosse actualité du jour, ce sont les nouvelles médailles de la France à Tokyo. 23 en tout depuis le début de la compétition, 6 en or, dont une aujourd'hui pour Jean Quincampoix en tir rapide à 25 mètres. Immense joie, bien sûr, du tireur, qui nous explique également en quoi consiste sa discipline. Écoutez.
Il y avait de la pression parce que forcément, j'étais le favori. Statistiquement, les deux compétitions de l'année, je les avais remportées, donc à savoir le championnat d'Europe et la manche de Coupe du Monde. Déjà, moi-même, je me mettais la pression parce que voilà, ça me tenait à cœur d'accomplir cet objectif-là. Et après, bien sûr, il y a la pression extérieure de l'environnement. Puis il y a l'événement en soi, les Jeux Olympiques, ça reste un événement à pression assez fort. Donc extrêmement heureux et extrêmement satisfait de l'accomplissement de l'objectif. Alors, la taille de la zone, c'est un peu plus de 10 cm de diamètre. Il y a cette pastille-là à toucher sur chacune des 5 cibles. Et en 4 secondes, effectivement, on a le bras en bas et à la lumière verte, on lève le bras et on a 4 secondes donc, pour essayer de tirer au centre de ce rond de 10 cm. C'est un mélange donc, d'habilité, de vivacité, mais aussi à la fois de précision et de finesse dans le geste, parce que voilà, c'est en très peu de temps, il faut faire énormément de petites choses. Ça passe par de l'entraînement, de la répétition. C'est vrai qu'avant de se mettre à ma discipline, d'abord, il faut savoir tirer sans contrainte de temps et tout simplement pour ensuite venir à ma discipline.
Jean Quicampoix au micro européen de Bruno Cuaz. L'autre médaille aujourd'hui était pour les cavaliers français. Elle est en bronze. La déception du jour revient à Samir Aït Saïd, le porte-drapeau qui échoue au pied du podium. Et aujourd'hui, donc, 34 médaillés olympiques sont tout juste rentrés de Tokyo. À peine arrivés à Paris, ils se sont rendus au village installé au Trocadéro. Récompense autour du cou. Ils ont été très chaleureusement accueillis par une importante foule de supporters. Pour le plus grand plaisir de Teddy Riner, très satisfait bien sûr du palmarès de l'équipe de France de judo. Écoutez.
Ça fait plaisir de voir un public comme ça, de voir autant de monde nous encourager, nous féliciter, partager ce moment de fête, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, je pense que moi le premier, même si j'ai connu pas mal de beaux moments comme ça, il y en a qui n'en ont jamais connu et dans une carrière, des moments comme ça, ça reste juste... imprégné à vie dans les cerveaux de chacun, quoi. On s'est arraché tous ensemble, on l'a fait tous ensemble et on l'a ramené tous ensemble, donc incroyable, elle est incroyable, elle est incroyable déjà parce qu'on a réussi à le faire, mais elle est incroyable aussi parce qu'on a vécu une journée juste extraordinaire. Des journées comme ça, on a envie d'en vivre, mais tous les jours. Et très très grosse fierté. Et voilà, du coup, ça rend un bilan positif et surtout tout le monde repart avec une médaille, donc je crois qu'on est sur notre petit nuage. Le judo français se porte bien et on va préparer tout ce qu'il faut pour aller chercher une belle moisson en 2024.
Teddy Riner au micro Europe 1 de Cyril de la Morinerie. Dans l'actualité également, le sud de l'Europe ravagé par les flammes. Des incendies se sont déclarés en Espagne, en Italie, en Turquie et en Grèce en raison des températures caniculaires. La Grèce où les pompiers luttent contre deux feux importants sur l'île de Rhodes et dans le Péloponnèse. Le pays est frappé par sa pire canicule depuis 34 ans et par endroits, le mercure a atteint les 45 degrés. Caroline Baudry.
Oui, une majeure partie du pays est classée rouge par le Centre national de météo grec. C'est le niveau d'alerte le plus élevé, jusqu'à 45 degrés dans le Péloponnèse, 43 à Athènes, 41 dans les îles Ioniennes. C'est là où vit Chloé, une Française expatriée, contactée dans sa maison, dont elle ne sort qu'une fois la nuit tombée.
On vit au maximum en décalé. Toute tentative dehors est insupportable, quoi. On a beau mettre des chapeaux, on ne peut pas marcher longtemps. On a facilement la tête qui tourne, et on ne peut pas respirer, on transpire évidemment. Les Grecs ici sont étonnés. Dès le mois de juin, il y a eu déjà des premières vagues de chaleur. Nos voisins, etc., disaient qu'ils n'avaient jamais vu ça.
Nous sommes dans une phase de dérégulation climatique absolue, ont averti les autorités à la télévision grecque. Plusieurs incendies se sont déclarés ce week-end dans le pays, surtout sur l'île de Rhodes et dans le nord-ouest du Péloponnèse où des centaines de personnes ont dû être évacuées. Les pompiers s'efforcent toujours de maîtriser les flammes aujourd'hui, alors que la vague de chaleur devrait se poursuivre demain.
Caroline Baudry. Gérald Darmanin souhaite faire de la lutte contre les violences conjugales l'une des priorités des forces de l'ordre. Dans les colonnes du Parisien, le ministre de l'Intérieur a réagi au bilan annuel des morts violentes au sein du couple publié par la délégation d'aide aux victimes. 102 femmes sont décédées l'année dernière sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoint. Un chiffre conséquent, évidemment, et qui a tout de même reculé en comparaison avec 2019, Marion Dubreuil.
Oui, c'est en moyenne un décès tous les 3 jours l'an dernier contre un décès tous les 2 jours en 2019 où l'on déplorait 146 féminicides. La baisse est notable et pour les associations, c'est le fruit d'une campagne de sensibilisation inédite aux violences conjugales. Pendant le premier confinement, rappelez-vous, le gouvernement a multiplié les moyens pour les victimes de se signaler. Supermarchés, pharmacies, en plus bien sûr des commissariats et des brigades de gendarmerie. Plateforme d'écoute 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et puis davantage de moyens alloués aux hébergements d'urgence pour extraire les femmes de situations à risque. Et c'est essentiel car cette étude le confirme, l'écrasante majorité des féminicides ont lieu au domicile conjugal.
Et plus d'un tiers de ces femmes tuées par leur conjoint ou ex-conjoint étaient déjà victimes de violences, Marion.
Oui, c'est un chiffre sans doute sous-évalué, car les violences psychologiques sont plus rarement connues. En revanche, une femme sur cinq avait déposé plainte. Et c'est constant par rapport à l'an dernier. C'est là où il reste une marge de manœuvre importante. Les interventions des forces de l'ordre sont pourtant à leur plus haut niveau. 400 000 interventions pour différents familiales l'an dernier. Le rapport dénombre deux fois moins de procédures judiciaires. Et c'est là encore une des pistes d'amélioration pour le ministre de l'Intérieur. Dans une interview accordée aux Parisiens, Gérald Darmanin dit vouloir encourager le recueil de plaintes ou les signalements au procureur. Et pour cela, il annonce un gendarme ou un policier référent des violences conjugales par brigade et commissariat.
Et en revanche, le gouvernement n'annonce pas de moyens supplémentaires pour lutter contre les violences conjugales.
Non, et c'est bien ce qui inquiète les associations comme la Fondation des Femmes. Sa présidente, Anne-Cécile Maillefer, craint que le ministre de l'Intérieur ait cédé à un effet d'annonce.
On est sur un yo-yo des priorités en matière de violences conjugales, où en fait, pendant quelques mois, on est en haut de la pile, on voit que ça s'améliore, et puis après, on descend en bas de la pile. Et grâce à la mobilisation médiatique et des associations, on arrive à péniblement remonter au-delà de la pile, et surtout quand il y a des défaillances tellement graves que vraiment, là, l'image du ministre est écornée, donc ils se sont un peu obligés de faire remonter en haut de la pile. Mais ce yo-yo-là, il est extrêmement néfaste pour les femmes victimes. Il faut qu'on puisse leur promettre, et que derrière ce soit suivi des faits, qu'elles seront toujours extrêmement bien accueillies et qu'elles seront toujours extrêmement bien écoutées et protégées.
Depuis le début de l'année, le collectif Féminicide par Compagnon ou Ex dénombre déjà 70 féminicides.
Marion Dubreuil du service Police-Justice d'Europe 1. C'est une décision qui était très attendue et sans surprise. Le tribunal de commerce de Paris valide ce soir la reprise des aciéries d'Ascoval et d'Hayange par l'allemand Sarchtal. Décision accueillie avec soulagement par les salariés des deux sites français. Mercredi se tiendra la conférence internationale sur le Liban, un an jour pour jour après la terrible explosion qui a dévasté Beyrouth. Une réunion organisée par la France et les Nations Unies qui a pour objectif de réunir au moins 350 millions de dollars d'aide d'urgence. C'est ce qu'a annoncé ce soir l'Élysée. Je vous le disais en titre, c'est un fait malheureusement qui est constaté chaque année durant les vacances d'été. Des milliers d'animaux domestiques sont abandonnés par leurs maîtres qui veulent partir en congé. Des abandons en hausse de 7% cette année. Et les refuges se retrouvent débordés. Écoutez Jacques-Charles Fonbonne, le directeur de l'SPA.
On a deux phénomènes cette année. Le premier, c'est que d'habitude, on est vraiment à saturation à cette période de l'année, c'est-à-dire après le week-end de chasse et croisée de juillet et août. Cette année, on a été à saturation pratiquement début juin, comme si les abandons s'étaient un petit peu précipités après le confinement. On a surtout, et c'est sans doute l'effet du confinement, une explosion du nombre des chats. C'est presque 24-25%. On pense que ça vient de l'absence de stérilisation des deux printemps précédents. Comme les associations, les communes n'ont pas pu sortir pour faire les stérilisations des chats libres, ça explique certainement cette augmentation. Alors il y a également une explosion du nombre des petits animaux, principalement des lapins. Et là, très clairement, ce sont des animaux que l'on achète, qu'on achète dans les animaleries, d'où notre combat contre la vente des animaux dans les animaleries, parce que les gens ont pris ça comme des jouets, très clairement, et puis à la fin du confinement, ils les ont abandonnés ou ils nous les ont apportés. Très clairement, c'est pour nous une des conséquences tout à fait directes de l'enfermement du confinement.
Jacques-Charles Fonbonne, directeur de la SPA, invité de la mi-journée sur Europe 1. Une bonne nouvelle concernant les animaux tout de même aujourd'hui. Elle vient du zoo de Beauval. 4 ans après son premier petit, la femelle panda Ruan Ruan a donné naissance la nuit dernière à des jumeaux. Les bébés sont en bonne santé et pèsent entre 100 et 150 grammes. Ils ont été placés en couveuse. A priori, ce sont deux filles et leurs prénoms seront choisis par la première dame de Chine dans 100 jours. Il nous reste à présent à voir le temps de demain et on oublie tout. Toujours pas son parapluie en ce début août, Valérie Darmon.
Les précipitations prennent même un caractère assez régulier sur la façade ouest le matin et puis du nord de la Nouvelle-Aquitaine au sud du Massif central et à l'Auvergne-Rhône-Alpes l'après-midi. Sur la façade est, c'est pas mieux, le ciel va rester chargé de cumulus menaçants avec quelques ondées à caractère orageux entre les Hauts-de-France, le Grand Est, la Bourgogne-Franche-Comté jusqu'au nord des Alpes. Autour de la Méditerranée, vous conservez un temps assez bien ensoleillé, mais venté, un petit peu laiteux en matinée et les températures ne décollent toujours pas, elle reste très très contrastée avec des maximales entre 18 à Brest et 30 à Marseille.
Merci Valérie Darmon. On jette à présent un coup d'œil aux unes de vos journaux. Demain en Europe, un été sous haute pression migratoire, titre Le Figaro. Comme chaque année, les pays de l'Union européenne sont confrontés à des arrivées massives de migrants. En France, la situation au bord de la Manche met les autorités à l'épreuve. Une contre-enquête publiée dans Libération à deux jours du premier anniversaire de l'explosion du port de Beyrouth. Beyrouth, un an après, accusation contre les policiers. Démission en cascade, juge récusé, mort suspecte. Les investigations sur l'explosion qui a détruit le cœur de la capitale libanaise accumulent les zones d'ombre. C'est à lire en pages 2 à 5. Du Liban, on part en Tunisie. Dans l'opinion, Kais Saied, le pari bonapartiste. Comment le président tunisien compte renforcer les pouvoirs de l'exécutif et utiliser l'arme judiciaire pour contrecarrer les desseins de ses adversaires politiques. À la une de vos quotidiens économiques, dans les échos, comment la filière automobile veut relever le défi de l'électrique. Le Figaro Économie, de son côté, s'intéresse au textile, le difficile retour du Made in France. Ouest France, pour sa part, revient sur les annonces concernant les violences conjugales, un bilan et des mesures à renforcer, alors qu'on a appris aujourd'hui que 102 femmes avaient été tuées en 2020 par leur conjoint ou leur ex-conjoint. Abandon d'animaux, l'été de tous les records, titre le Dauphiné, un phénomène qui a pris une ampleur inédite en 2021 entre le 1er mai et le 23 juillet. Plus de 11 000 animaux, dont une grande majorité de chats, ont été recueillis par la SPA en France. Et puis La Croix s'intéresse aux scouts, les scouts qui jouent l'ouverture, les camps d'été sont un temps fort du scoutisme que certains mettent à profit pour toucher de nouveaux publics et réfléchir aux bons usages des outils numériques.